l'écoute de Radio France Internationale. Il est 19h30 à Paris et Kinshasa, 18h30 à Dakar et Bamako.
Afrique Soir sur RFI.
Et c'est l'heure de retrouver toute l'actualité sur le continent pendant 30 minutes. La première édition d'Afrique Soir de ce mercredi vous est présentée par Zéphirin Quadio. Bonsoir Zéphirin.
Bonsoir Romain, bonsoir à toutes et à tous. Au sommaire du football avec le tirage au sort du CHAN, le championnat d'Afrique des Nations, il a lieu en ce moment même à Nairobi au Kenya. L'événement prévu en février avait été reporté de 6 mois. La prestation de serment du président mozambicain Daniel Chapo, cérémonie d'investiture dans un climat de tension inédit, l'opposant Venancio Mondlane avait appelé à 3 jours de grève nationale. Et puis le président angolais attendu demain à Paris pour une visite d'État, João Lourenço, sera reçu à l'Elysée à la mi-journée. Une visite pour renforcer les relations entre Luanda et Paris, selon la présidence française. Nous reparlerons également de l'amnistie décidée par Macky Sall en 2024 au Sénégal. Une loi qui suscite la controverse depuis qu'elle a été adoptée. C'était en mars dernier. Mais d'abord, direction Nairobi, où vient d'avoir lieu le tirage au sort du prochain CHAN, le championnat d'Afrique des Nations, réservé aux joueurs évoluant sur le continent et qui aura lieu donc en août prochain dans 3 pays, le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie. Bonsoir Eric Mamrut.
Bonsoir Zéphirin, bonsoir tout le monde.
On le saura parler et l'on connaît la composition des 4 groupes de ce 8e CHAN.
Un CHAN qui regroupera 19 nations. Elles sont réparties en 3 groupes de 5 équipes avec un groupe de 4. Le groupe A est le plus relevé avec le Kenya, le Maroc double vainqueur en 2018 et 2020, l'Angola, la République démocratique du Congo qui elle aussi a remporté à 2 reprises le trophée en 2009 et 2016 et enfin la Zambie. Le groupe B, celui de la Tanzanie, sera particulièrement francophone avec outre les Taifa Stars, Madagascar, la Mauritanie, le Burkina Faso et la République centrafricaine qui participera pour la toute première fois à la phase finale. Le groupe C est celui de l'Ouganda qui a hérité de la Guinée, du Niger, 4e de la dernière édition en 2022, ainsi que de 2 équipes non encore connues. Un tournoi regroupant 7 nations doit en fait encore se tenir pour désigner les 2 derniers participants. Ces 7 nations sont l'Algérie, le Gabon, l'Égypte, l'Afrique du Sud, le Malawi, la Gambie et les Comores. Reste le groupe D, le groupe de 4, si vous avez bien suivi, Zéphirin, c'est celui du tenant du titre sénégalais, le Sénégal qui affrontera le Congo, le Soudan et le Nigeria.
J'ai parfaitement suivi Eric Mamrut. Malgré ce tirage au sort, Eric, plusieurs incertitudes demeurent concernant ce CHAN 2025.
Oui, puisque vous en parliez hier, la CAF avait donc signifié le report de cette phase finale qui aurait dû débuter le 1er février prochain pour s'achever le 28, mais toutes les infrastructures n'étaient pas prêtes pour accueillir cet événement en temps et en heure, notamment au Kenya. La CAF a donc donné rendez-vous au mois d'août, mais sans donner de date officielle de début et de fin d'épreuve. On ne connaît pas non plus les villes hôtes de la compétition, que ce soit en Tanzanie, en Ouganda ou au Kenya. Et puis, on ne connaît pas la date ni le lieu du tournoi qui désignera les 2 derniers qualifiés. Bref, un 8e CHAN qui connaît, on va dire, une licence un petit peu compliquée.
Merci Eric Mamrut, dossier à suivre. Dans l'actualité également ce mercredi au Mozambique, Daniel Chapo est donc officiellement le 5e président de la République. Il a été investi aujourd'hui et prolonge ainsi le règne sans partage du Frelimo, parti au pouvoir depuis près d'un demi-siècle. Son élection est toujours contestée. La cérémonie d'investiture s'est d'ailleurs déroulée dans un climat de tension inédite, hein, puisque l'opposant Venancio Mondlane avait appelé à 3 jours de grève nationale. Le récit de Lisa Fabian.
En costume 3 pièces, Gabriel Mukumani est venu à pied jusqu'à la place de l'Indépendance. Aucun barrage de police ne lui aurait fait manquer la cérémonie. C'est un fervent partisan de Daniel Chapo.
Si la majorité des Mozambicains l'ont choisi, c'est que Daniel Chapo a toutes les capacités nécessaires. De plus, les cadres du parti Frelimo ont déjà démontré qu'ils peuvent contribuer au développement de ce pays.
Après avoir prêté serment, Daniel Chapo demande une minute de silence pour les victimes du cyclone Chido et surtout pour ceux qui ont trouvé la mort pendant les manifestations des derniers mois.
Ce silence nous rappelle le poids de notre responsabilité, mais aussi la grande force de notre nation. Unis, nous sommes capables de surmonter les obstacles et de transformer notre douleur en prospérité.
À quelques centaines de mètres de là, des groupes de manifestants se forment. Très vite, la police tire. Réfugié dans une rue adjacente, Basil Oupash ne décolère pas.
C'est une aberration. On a deux présidents, un pour le peuple et un pour le Frelimo. Mais on ne s'arrêtera pas. Ils ne nous gouverneront pas. Pas le Frelimo. Pour eux, le peuple, ce sont des mendiants. Je n'ai pas peur. Qu'ont-ils fait de moi ?
Selon la plateforme de la société civile Décide, 7 personnes ont été tuées par les forces de l'ordre à Maputo et Nampula au moment où se déroulait cette cérémonie d'investiture.
Lisa Fabian et direction Steele Fontaine en Afrique du Sud, où 78 corps, des corps sans vie ont été remontés d'une mine d'or abandonnée depuis le début d'une opération de sauvetage, c'était lundi. Des cadavres qui s'ajoutent à ceux déjà extraits par des volontaires ces dernières semaines. Les pouvoirs publics avaient bouclé l'accès à la mine et restreint l'approvisionnement en nourriture depuis des mois, attendant que ces orpailleurs illégaux ressortent pour les arrêter. Bonsoir Claire Barjolès.
Bonsoir.
Alors les autorités viennent, Claire, tout juste d'annoncer être parvenues à la fin de cette opération de sauvetage et avoir fait remonter toutes les personnes possibles, Claire.
Oui, au total, plus de 240 survivants ont pu être évacués de ce puits profond de plusieurs kilomètres et des convois ont continué à transporter toute la journée ces mineurs vers les postes de police environnants ou vers les hôpitaux pour ceux trop affaiblis par le manque de nourriture. Selon la police, les services de secours doivent encore descendre leur cage au fond de la mine pour vérifier qu'elle est bien vide. Un grand camion a aussi fait la navette dans la journée avec les morgues. Deux d'entre elles, à Klerksdorp et à Potchefstroom, sont pleines, selon une source qui travaille sur ces sites, et beaucoup de corps ne sont pas bien conservés et se retrouvent décomposés après être restés si longtemps sous terre. Le processus d'identification par les familles n'a pas encore commencé, car les dépouilles doivent d'abord être répertoriées et préparées. Ces orpailleurs illégaux, qu'on surnomme ici les Amazama, soit ceux qui tentent leur chance en Zoulou, viennent principalement des pays de la sous-région, du Mozambique, du Lesotho ou encore du Zimbabwe, souvent attirés par de fausses promesses d'emploi. Ils se retrouvent ensuite à tenter d'extraire un peu de minerai de ces gisements qui ne sont plus rentables pour les anciens exploitants, chapeautés par des gangs qui supervisent l'activité.
Claire Barjolès en direct de Johannesburg. Merci Claire. Le président angolais attendu demain à Paris pour une visite d'État. João Lourenço sera reçu à l'Élysée à la mi-journée pour un déjeuner de travail avant un dîner d'État en soirée. Une visite pour renforcer les liens bilatéraux et faire le point sur les grands sujets régionaux et internationaux selon la présidence française. L'Angola prendra, faut-il le rappeler, le mois prochain la présidence tournante de l'Union africaine. Et avant de s'envoler pour Paris, João Lourenço a justement évoqué hier à Luanda son prochain mandat à la tête de l'organisation lors d'une conférence de presse.
La stratégie à suivre est du dialogue.
La stratégie à suivre, c'est celle du dialogue, de parler à tous et de respecter les principes établis par l'organisation continentale, l'Union africaine, donc. Et ce, afin d'essayer de résoudre les graves problèmes auxquels notre continent fait face. Et je cite en commençant par l'instabilité politique, les guerres, le terrorisme, les prises du pouvoir par des voies inconstitutionnelles. Tout ça, donc, ce sont des phénomènes qui vont à contre-courant du développement économique et social que nous voulons pour nos pays. Donc, sans paix et sans stabilité, il n'y a point de développement économique et par conséquent, pas de solution aux problèmes sociaux des populations africaines.
Les problèmes sociaux des populations africaines.
Déclaration du président angolais, João Lourenço, attendu donc demain à Paris. Au Gabon, le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, a procédé ce mercredi à un remaniement de son gouvernement. Le premier ministre Raymond Ndongsima et les principaux poids lourds de l'équipe sortante conservent leur portefeuille. Le nouveau gouvernement compte 35 membres contre 31 dans l'ancienne équipe. Il y a 10 nouveaux ministres, parmi eux Marc Doumba, nommé ministre de l'économie, ou encore Séraphin Davin Akouré, premier ministre de l'énergie et porte-parole du gouvernement. 6 ministres quittent l'équipe, parmi eux le ministre des Transports, Loïc Ndinga Munduma, et le ministre des Sports, Jacques Ogan. Le principal défi qui attend le nouveau gouvernement, c'est l'organisation des élections qui mettront fin à la transition en août prochain.
Abidjan, 97.6 FM.
En Côte d'Ivoire, la Cour d'appel a confirmé ce mercredi les charges contre 2 responsables de Génération et Peuple Solidaire, un mouvement fondé par Guillaume Soro. Il s'agit de Mamadou Traoré et Kando Soumaoré, tous les deux condamnés à 2 ans de prison ferme pour 2 dossiers distincts. Les explications de Binta Diagne.
Le délibéré a été succinct. La cour d'appel a simplement confirmé les deux condamnations prononcées en première instance. Mamadou Traoré avait été arrêté le 9 août 2024 pour une publication sur Facebook dans laquelle il affirmait que du matériel employé lors du défilé militaire pendant la fête nationale avait été, je cite, « loué à la force européenne Takuba, chez et du Mali ». Ce responsable avait été condamné pour diffusion de fausses informations et troubles à l'ordre public. Kando Soumaoro avait été, lui, condamné à 2 ans de prison ferme pour troubles à l'ordre public. La justice lui reproche d'avoir participé à une réunion de l'opposition en août, alors que son mouvement, GPS, a été dissous par la justice, ce que contestent encore ses avocats. Maître Calix Esmel.
Dans l'une et l'autre affaire, aucune preuve n'a été apportée par le parquet. L'accusation a évoqué le fait que GPS serait un parti politique. Nous défendons le fait que GPS est une association et que c'est par une décision administrative qu'on dissout une association.
Dans l'immédiat, les avocats comptent se pourvoir en cassation pour contester cet arrêt rendu par la cour d'appel. Bintadian Abidjan, RFI.
On reste en Côte d'Ivoire où la production de pétrole et de gaz dépasse les prévisions, annonce faite ce mercredi par le porte-parole du gouvernement. Amadou Koulibaly a rappelé que la production de la phase 1 a débuté en août 2023 et celle de la phase 2 le 28 décembre 2024. La production cumulée des deux phases doit permettre d'atteindre entre 75 000 et 85 000 barils jour et entre 80 et 85 millions de pieds de cubes de gaz par jour. La décision de la mise en production d'une troisième phase sera prise fin 2025. Au Burkina Faso, on a appris ce mercredi qu'une attaque terroriste contre un convoi routier a fait de nombreuses victimes dans le nord-est samedi dernier. Une embuscade qui a eu lieu entre les villes de Dori et de Seitenga, près de la frontière nigérienne. Le récit de Frédéric Garam.
Selon différentes sources locales, c'est un cortège militaire escortant des civils qui, samedi dernier, vers 16h, est tombé dans une embuscade au niveau du village de Kachirga. En tête de cortège, un premier convoi militaire a essuyé des tirs au lance-roquettes des terroristes, ce qui a provoqué un vent de panique parmi les civils qui suivaient les blindés et a rendu d'autant plus compliquée la riposte. Ce sont les forces de sécurité burkinabées qui ont payé le plus lourd tribut, avec 4 gendarmes et 14 militaires tombés sous les balles des djihadistes. On dénombre aussi de sources sécuritaires 3 civils tués. Un contact local évoque plutôt 6 civils morts, dont 2 Nigériens et 14 disparus. Les auteurs de cette attaque ont également pris du matériel aux forces armées burkinabées, à savoir 2 pick-up, des motos et des armes. Une grande partie des équipements de cette escorte a été incendiée. Ce convoi militaro-civil avait pour but de ravitailler depuis Dori, la commune rurale de Seitenga, plus à l'est, vers la frontière nigérienne. Un convoi qui, malgré cette embuscade, a pu finalement arrivé à destination 2 jours plus tard.
Frédéric Gara. Et puis au Sénégal, c'est une loi qui suscite la controverse depuis qu'elle a été adoptée. C'était en mars dernier, dans les tout derniers jours au pouvoir du président Macky Sall. Il s'agit de la loi d'amnistie qui annule les poursuites pour les actes criminels liés à des manifestations politiques, actes commis entre le 1er février 2021 et le 25 février 2024. Selon un rapport publié ce matin par l'université de Stanford et le groupe de réflexion sénégalais Africa Jump Center, cette loi d'amnistie viole le droit international et est en déni de justice. À Dakar, les explications de Léalisa Westerhoff.
Premier constat, en amnistiant tous les crimes commis dans le cadre des manifestations entre février 2021 et 2024, et donc aussi les cas de torture et les crimes de sang, cette loi prive les victimes de justice, mais aussi de la possibilité de connaître la vérité et d'obtenir des réparations. Très concrètement, 58 familles qui ont perdu un proche dans ces manifestations ont porté plainte, des plaintes classées sans suite depuis que la loi d'amnistie a été adoptée en mars dernier. Pourtant, la Convention contre la torture, ratifiée par le Sénégal, oblige les États à enquêter et à poursuivre les auteurs de torture ou d'exécution extrajudiciaire. Si Dakar ne le fait pas, il viole le droit international et les traités qu'il a signés, des engagements qui priment sur le droit national selon la Constitution sénégalaise. Conclusion, pour les juristes de l'université américaine de Stanford, auteurs de ce rapport, il faut abroger cette loi d'amnistie et offrir la possibilité aux victimes des violations des droits de l'homme d'aller en justice et de connaître la vérité sur ce qu'il s'est passé. Léa Lisa Westerhoff, Dakar, RFI.
Et pour Aliou Ntine, un défenseur des droits de l'homme et fondateur du centre Africa Jeum, si cette loi d'amnistie a permis de pacifier l'espace public au moment de la présidentielle en mars dernier, elle est aussi un poison, je cite, car elle risque d'encourager l'impunité. Il y a donc, selon lui, urgence à l'abroger. Aliou Ntine, au micro de Nicolas Sûr.
Je pense que les victimes qui sont là devant nous, de la famille des Didier Badji, des Fulbert Sambou, des Mankabou, décédés en détention. Donc, ces gens ont besoin de savoir la vérité de ce qui s'est passé parce qu'ils ont vécu des moments extrêmement tragiques. Ils ont ce droit, le droit à la vérité. Ils ont le droit à la justice. Et effectivement, si la loi d'amnistie est une obstruction, il faut lever cette obstruction pour permettre à ces victimes de savoir la justice. Qu'est-ce qui leur est arrivé ?
L'amnistie a d'abord été, vous l'avez dit, un remède. Elle a permis la libération d'Ousmane Sonko et de Bassirou Diomaye Faye, en même temps qu'elle permettait aux responsables sécuritaires du régime de Macky Sall d'échapper aux poursuites. Vous-même qui avez joué les médiateurs à l'époque entre les deux camps, vous dites aujourd'hui que c'était un mauvais compromis.
Donc, je dis aujourd'hui que la loi d'amnistie doit rendre justice aux victimes de crimes graves contre les droits humains. C'est ça. La loi d'amnistie ne doit pas être une garantie d'impunité pour tous les gens qui ont commis des crimes graves. Et la loi d'amnistie doit faire en sorte que le Sénégal respecte ses obligations en matière de droits humains, respecte ses obligations par rapport à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, respecte même ses obligations par rapport aux fondements de l'Union africaine.
Vous dites, depuis les dernières législatives, Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko ont au Parlement la majorité requise pour annuler la loi. Mais qu'est-ce qui se passerait dans ce cas ? Est-ce qu'on n'entrerait pas dans un casse-tête juridique inextricable ? Qui devra décider de qui doit être poursuivi ou pas, pour vous ?
En principe, il y a aussi ce qu'on peut appeler une abrogation partielle. Ça veut dire les gens qui ont été arrêtés pour avoir manifesté, mais toutes les personnes qui ont été auteurs de torture, auteurs d'exécutions extrajudiciaires. Et ben vraiment, ces gens ne peuvent pas ne pas être jugés parce que les victimes en ont besoin. Généralement, effectivement, c'est comme ça que ça se passe. Après la justice, maintenant, une fois jugé, on peut aller vers la réconciliation nationale. La réconciliation nationale ne peut arriver qu'après, effectivement, que les gens soient jugés, reconnaissent leur... leur tort et s'amende auprès de la société.
Aliou Ntine, défenseur des droits de l'homme et fondateur du Centre Africa Jeum, au micro de Nicolas Sûr, à l'écoute de Radio France Internationale. Il est 18h47 à Dakar, une heure de plus à Paris et Kinshasa. Et cap sur la République démocratique du Congo maintenant pour notre reportage Afrique. On part précisément à Bukavu, dans le sud Kivu, où après les fêtes de fin d'année, l'heure est à la propreté des quartiers. Des travaux communautaires, communément appelés Salongo, sont organisés dans la ville pour nettoyer les rues. Notre correspondant William Bassimike a assisté au Salongo, organisé chaque samedi entre 8h et 10h. Reportage.
Entourée de bouteilles plastiques, cette mère des trois enfants, Neema Birugu, la trentaine, balaye sur son avenue. Pour elle, les Salongo, c'est d'abord une discipline personnelle.
Pendant la fête, moi, mes enfants et certains amis, nous avons bu du jus. Mais après, les enfants ont jeté les bouteilles vides presque partout, dans la cour, jusque dans l'avenue. Alors ma tâche, c'est de les ramasser, car après la fête, c'est la propreté.
Généralement, les Salongo est effectué en petits groupes par axe, selon les affinités. Jérémy Muziraboba est membre du groupe des motards volontaires. Il a déposé sa moto pour tirer une charrette pleine d'immondices.
Beaucoup de commerçants, ils ont jeté des sachets, des paquets de biscuits, les restes de choux, les légumes vendus par-ci, par-là. Et c'est pourquoi on a jugé bon rendre la ville propre.
Au centre-ville, l'administrateur du marché de Nyawera, Chikwanine Chanyungu Shabade, salue les Salongo et demande un coup de pouce pour mieux faire.
Je vois que c'est à peu près propre, mais ce que je demande à notre gouverneur, c'est de donner un véhicule à chacune des trois communes pour l'évacuation des déchets.
C'est surtout les lieux publics comme les ronds-points majeurs Vangou et la place de l'indépendance qui sont visés par les jeunes membres de l'association Briquette du Kivu pour faire bonne impression et attirer les visiteurs, à l'instar de la Kenyane Wanjira Matai, directrice régionale pour l'Afrique de l'Institut des ressources mondiales VERI. Elle exprime son admiration.
Nous sommes très fiers. Ici, c'est une symbole de la restauration. Nous sommes en partenariat ensemble pour la ville de Bukavu.
Mugisho Zihaliroa Joseph est coordonnateur de la cellule de communication à la mairie de Bukavu. Il loue les résultats de l'effort collectif.
Les déchets qu'on produit par jour, 9 896 tonnes. L'autorité urbaine s'est décidée de rendre la ville de Bukavu propre qu'avant.
Les salongos peut-ils suffire à l'évacuation des déchets urbains? Apollinaire Boulindi, habitant de Bukavu, pense de son côté qu'il faut aller au-delà et qu'au vu des conséquences sur le trafic, il faudrait l'accompagner d'autres mesures.
Quand on fait les salongos, ça signifie que les samedis, toutes les activités sont bloquées. De 8h à 10h, il faudrait réfléchir dans le sens d'engager un service pour faire la propreté dans la ville.
Des experts en environnement se disent eux aussi partagés sur les salongos qu'ils encouragent, mais qu'il faudrait selon eux mieux encadrer. William Bassimike, Bukavu, RFI.
Et enfin de la musique, avant de refermer cette édition africaine avec le groupe togolais Vodou Game. Vodou Game qui sort ce vendredi son 5e album. Sur ce disque, le groupe a pris le parti de traverser l'Atlantique pour mélanger son groove africain à celui de l'Amérique latine et forger une fusion vaudou-afro-cumbia. Un cocktail que Pierre Vallée nous invite à découvrir.
Pantalon pas de def, col pelle à tarte, sur la pochette du nouvel album, Peter Solo, le chanteur et guitariste de Vodou Game, cultive le look des années 70. Composée de musiciens français et togolais, la musique de Vodou Game a toujours été empreinte de nostalgie, naviguant entre l'afro-funk, le high-life et l'incontournable afrobeat. Un mélange efficace, parfaitement maîtrisé, concrétisé par le joli succès du titre « Pas contente » en 2014. Ce titre joyeux au premier abord est révélateur des considérations écologiques du groupe. Et si leur groove est redoutablement entraînant, les morceaux de Vodou Game ont toujours un fond de philosophie. Ils interrogent sur le rapport de l'homme à la nature, le sens de la famille ou la spiritualité. Car, comme son nom l'indique, la culture vaudou n'est jamais très loin, comme une sauce liant tous les éléments d'une bonne recette. Pour ce 5e album, Fintou, Vodou Game a pris un virage artistique. Plutôt que de continuer à creuser le sillon de l'afrobeat, ils se sont tournés vers l'Amérique du Sud et plus précisément vers la Colombie. Et ils ont eu une très bonne idée. Le mélange entre la cumbia et les rythmes togolais est subtilement dosé et apporte une dimension supplémentaire à la musique du groupe. En illustration, le morceau « Râlé », un titre au refrain envoûtant qui nous apprend d'abord que râlé n'est pas qu'une spécialité française, et ensuite que de Paris à Lomé en passant par Bogota, ça fait toujours du bien de râler.
Râler, râler, c'est très bon. Râler, donne la santé.
ça fait du bien de râler. Extrait de Fintou, le cinquième album du groupe togolais Vodou Game, album qui sort ce vendredi. Un choix musical signé Pierre Vallée pour refermer cette première édition d'Afrique Soir. RFI, 18h55, en temps universel à suivre à 19h10, temps universel, la vie des Européens, accent d'Europe et un dossier sur TikTok, les réseaux sociaux et la désinformation. Nous irons en Albanie, en Turquie et en Slovaquie avec une interview de Nicolas Kennel, auteur de Allo Paris, ici Moscou, qui décrypte la manipulation de l'information en Europe et en France par la Russie. Il montre comment l'entreprise russe qui avait contacté un youtubeur français en 2021 pour faire de la désinformation sur le vaccin contre le Covid est derrière les interférences de Moscou en Roumanie.
Il y a quelques mois, j'ai été contacté par un collègue en Roumanie qui a affirmé avoir mis la main sur des documents qui permettaient d'en savoir plus. Et on s'est rendu compte qu'en fait, cette entreprise n'était absolument pas née ni en 2020, ni en 2021, mais qu'elle travaillait depuis au moins 2016 en Roumanie et elle a dépensé des millions d'euros en Roumanie pour faire de la désinformation au service généralement des intérêts russes.
Entretien à retrouver dans Accent d'Europe tout à l'heure à 19h10, temps universel ou en podcast sur le site de RFI et l'application Pure Radio. Et puis à 19h40, toujours en temps universel, le grand reportage avec le deuxième volet de cette série en quatre parties consacrée au retour de Donald Trump à la Maison Blanche. Aujourd'hui, direction le Mexique à bord de celui que les candidats à l'exil surnomment la bestia, autrement dit la bête. Si les positions ouvertement anti-immigration du prochain président augmentent, l'incertitude des candidats à l'exil, leur désespoir est tel que beaucoup sont prêts à prendre tous les risques pour poursuivre coûte que coûte leur rêve américain, y compris en sautant dans ce terrible train. C'est notamment le cas de Robinson Molina, 28 ans, parti de son pays, le Venezuela, depuis bien longtemps.
Je suis un peu pressé pour passer de l'autre côté avant que Trump entre à la présidence le 20 janvier. J'ai peur qu'il supprime la possibilité de demander l'asile ou bien rendre son accès plus difficile. Donc oui, pour cette raison, je me dépêche d'aller aux États-Unis.
Trump, le retour au Mexique sur les rails de la crise migratoire. Un grand reportage de Gwendolila Duval. C'est à 19h40 en temps universel. Et puis enfin à 20h10 temps universel. Couleur tropicale et un hommage à la chanteuse Alia, produite à l'origine par R. Kelly. Elle devient célèbre durant les années 90 grâce à plusieurs collaborations. Elle vend ainsi plus de 8 millions de disques rien qu'aux États-Unis et 32 millions dans le monde le 25 août 2001. Alors qu'elle rentre du tournage du clip Rock the Boat tourné aux Bahamas, l'avion dans lequel Alia et son équipe se trouvent s'écrase peu après le décollage, ne laissant aucun survivant. Alia meurt, elle a 22 ans. On écoute un extrait du titre Back and Forth. Back and Forth de la chanteuse Alia, qui couleur tropicale rend un hommage ce soir à partir de 20h10, temps universel. L'info continue en attendant sur Radio France Internationale avec à suivre dans un court instant un nouveau journal.
Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Demain.
Regard croisé sur la cardiologie en Afrique subsaharienne.
Vendredi.
Émission Questions de femmes, nous parlons de la fatigue comme symptôme.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI. RFI, la sélection du mois.
Patrick Watson et November Ultra.
I lost my voice. Something about this choir.
Alyosha Schneider.
RFI
Musique.